Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur les chemins de la philosophie en route à partir d'une question, ou plutôt d'une expérience de pensée. Imaginez un monde dans lequel rien de nouveau n'arriverait jamais. Un monde où l'avenir ne serait que la répétition du passé. Ce monde, digne des meilleurs scénarios de science-fiction, c'est le nôtre, ici-bas, sous le soleil, où rien de nouveau n'arrive jamais. En tout cas, c'est ce que dit l'Ecclésiaste, ce texte mystérieux à la postérité inouïe. L'Ecclésiaste, ça ne vous dit rien? Eh bien écoutez, voici une des nombreuses adaptations contemporaines de ce texte en chanson. Bonjour Denis Moreau.
Bonjour.
Bienvenue sur le chemin de la philosophie.
Merci.
Vous êtes professeur de philosophie classique et de philosophie de la religion à l'Université de Nantes. Et c'est avec vous donc que nous allons reposer la question que nous avons posée hier, que nous poserons toute cette semaine, à savoir où se tourner pour trouver du nouveau. Hier on parlait d'Héraclite, demain on parlera de Baudelaire. Et aujourd'hui donc c'est en compagnie de l'Ecclésiaste que nous allons nous poser cette question. Alors Denis Moreau, l'Ecclésiaste, qui est-ce? Ou plutôt, qu'est-ce que c'est puisque... on le connaît aujourd'hui comme le nom d'un texte plus que d'un personnage.
Alors, ça sort de la Bible. Si je dis ça, ça va faire peur aux gens. Donc la première chose qu'il faut dire, c'est que c'est un texte court, c'est un texte simple, qu'on peut lire sans prérequis. C'est un texte dont on se demande à la lecture pourquoi il est dans la Bible. Et c'est un texte qui est sans doute un des plus beaux textes de philosophie morale que nous ait légué l'Antiquité. C'est magnifique.
Plus beau texte tout court, c'est voilà. Un texte d'une beauté inouïe.
Donc, oublions que c'est dans la Bible si ça fait peur aux gens et recommandons sa lecture. Alors après, je vais expliquer un petit peu pourquoi ça se trouve dans la Bible. Je repars d'un petit peu loin. La Bible, on en parle comme d'un singulier, comme d'un livre. En fait, ce n'est pas ça. Ça vient du grec « ta biblia », les livres. Et donc la Bible, c'est une collection de livres. C'est avec tout le respect que je dois aux croyants qui nous écoutent. Je crois qu'un extraterrestre qui débarquerait, à qui on donnerait ça, dirait c'est quand même un sacré bazar. Puisqu'il y a, alors dans la version juive de la Bible, enfin, la partie qui est commune aux juifs et aux chrétiens, que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, 24 livres pour les juifs, de nature extrêmement différente. C'est hétéroclite. Alors il y a pour le dresser le tableau en quelques instants, vous avez ce que tout le monde connaît, la Torah pour des juifs ou le Pentateuque des chrétiens, donc les cinq premiers livres de la Bible, la Genèse, tout le monde voit ce que c'est, ça raconte l'histoire, donc la création du monde, les patriarches, et puis la Torah se termine avec Moïse, l'exil en Égypte et l'arrivée des Hébreux en terre promise. Premier paquet. Trois autres paquets, je reprends une classification chrétienne commode, vous avez des livres historiques. Les livres historiques, ça raconte l'histoire du peuple juif, ses batailles, ses défaites, ses rois, etc. Vous avez des livres prophétiques, comme le nom l'indique, on y trouve des livres de style un peu enflammé qui parlent de Dieu, du futur, les uns de façon triste, les autres de façon gaie. Et puis vous avez enfin un troisième paquet de livres, ce sont des livres de sagesse. Alors la sagesse, c'est un mode de pensée qui s'est développé au Moyen-Orient. C'est peut-être un peu désacralisant ce que je veux dire. Ça, par certains côtés, ça s'apparente au développement personnel d'aujourd'hui. C'est des conseils pour bien se conduire en bon citoyen, honnête père de famille, etc. Et l'Ecclésiaste apparaît dans les livres de sagesse. Alors, il est attribué, nouvelle information, au roi Salomon. Le roi Salomon, c'est le troisième roi d'Israël, donc retour d'Égypte, installation en terre promise, là il y a une période intermédiaire avec des leaders politico-religieux qu'on appelle les juges, et puis les Israélites se dotent de rois. Le premier c'est Saül, le second c'est David, et le troisième c'est Salomon. Et là, on arrive dans la période où on commence à avoir des traces archéologiques attestant l'existence des personnages. C'est-à-dire Moïse, personne ne sait s'il a existé. Salomon, ça c'est sûr, il a été roi d'Israël.
Vers moins 900...
De 960, moins 970 à moins 931. deux caractéristiques de Salomon. Il est réputé pour sa grande sagesse. Voilà. Il y a un très beau texte qui s'appelle « Le songe de Gabaon » où le jeune roi Salomon, Dieu dit au jeune roi Salomon « Que veux-tu ?» Et Salomon, au lieu de demander les honneurs, demande la sagesse. Et Dieu lui dit « Je te l'accorde, c'est à ça qu'il fallait demander. Et comme tu as demandé la sagesse, en plus tu auras tout le reste. » Et alors deuxième caractéristique du règne du roi Salomon, c'est le luxe. C'est
Ce qui est donc compatible avec la sagesse.
Ce qui semble compatible avec la sagesse, mais l'Ecclésiaste va mettre ça en crise. Le luxe, donc, c'est la Bible en joli sans doute, mais c'est un règne extraordinaire avec construction de bâtiments fastueux, danses, banquets. Le roi Salomon, alors je ne sais plus si c'est 300 épouses et 900 concubines, et 700 concubines ou l'inverse, mais voilà, c'est quelqu'un qui vit bien et fastueusement. Et le roi Salomon est l'auteur présumé, d'après la tradition, d'un certain nombre de textes de la Bible qui apparaissent dans les écrits de sagesse. On va en retenir trois ici, dont on va avoir l'occasion de reparler peut-être. Les proverbes, comme leur nom l'indique, ce sont des proverbes. Les pages roses du petit Larousse, mais dans la Bible. Le Cantique des Cantiques, alors autre texte dont on se demande bien ce qu'il peut faire dans la Bible, puisque c'est un texte érotique qui raconte avec, ça aussi c'est beau, qui raconte avec dans des métaphores audacieuses et un lexique parfois cru, les relations amoureuses, y compris charnelles d'un monsieur et d'une dame, mal identifiées, mais où la tradition reconnaît Salomon. Et puis enfin, le livre qui nous intéresse, l'Ecclésiaste. Alors l'Ecclésiaste, en suivant la Bible que cacheteront nos lecteurs, parfois ils le trouveront appelé Coélète, c'est le mot hébreu, ou bien Ecclésiaste, c'est le mot grec, ça veut dire la même chose, ça veut dire le chef de l'assemblée. Ecclésia en grec, c'est le mot qui est donné église, mais avant ça c'est l'assemblée. Donc c'est quelqu'un d'important qui s'adresse aux gens et qui leur adresse un discours.
Donc à la base, l'Ecclésiaste c'est une fonction.
L'Ecclésiaste c'est une fonction.
Un représentant religieux qui s'adresse à des gens.
Ça c'est donc l'attribution de l'Ecclésiaste à Salomon, c'est la tradition.
Parce que rien ne prouve le narrateur la tradition, du texte, puisqu'il y a vraiment une histoire qui est racontée, soit Salomon.
Il se trouve que depuis au moins Spinoza, les études bibliques ont fait de grands progrès, et on est à peu près sûr aujourd'hui que Salomon n'est pas l'auteur de l'Ecclésiaste, tout comme on est sûr le Pentateuque a très longtemps été attribué à Moïse. Et on est sûr que c'est pas de Moïse. Alors peut-être qu'il y a des bribes de Moïse ou des bribes de Salomon qui sont passées dans l'Ecclésiaste. Mais l'Ecclésiaste, il y a plein d'hypothèses sur son écriture. La plus couramment admise, et vous allez voir pourquoi elle est intéressante quand on fait une émission de philosophie, c'est que c'est un texte qui a été écrit au 3e ou 2e siècle avant Jésus-Christ. Alors peut-être en recueillant des traditions qui venaient
donc
de Salomon.
Donc 700 ans après le règne de Salomon.
Alors là, l'époque a changé. C'est le monde hellénistique, c'est l'empire d'Alexandre le Grand. Et on pense que c'est un juif frotté de culture hellénistique qui a écrit ça. Alors c'est important de le noter parce que ça veut dire qu'il est frotté de philosophie hellénistique. Les grands courants de la philosophie hellénistique sont le stoïcisme, l'épicurisme, le scepticisme. Et quand on commence à lire l'Ecclésiaste d'un peu près, on y trouve manifestement des tentatives pour dialoguer et de façon critique avec ces grands courants philosophiques. Donc c'est pour ça que je parlais d'un grand texte de philosophie, je pense à un des livres de la Bible qui a du poids philosophique. Spinoza ne s'y est pas trompé, qui appelle Salomon, l'auteur présumé de l'Ecclésiaste, le philosophe, P majuscule. Après, voilà, ça c'était pour la petite introduction érudite. J'espère que je ne choquerai personne en disant, après tout, savoir si c'est Salomon qui l'a écrit ou pas, peu importe, le texte nous l'avons, il est magnifique.
Et je vous propose qu'on l'ouvre et qu'on le lise ensemble, enfin, ensemble en tout cas, oui, vous et moi et les auditeurs, et surtout par la voix de Georges Claes, qui donc va vous interpréter le début de l'Ecclésiaste. Écoutez.
« Vanité des vanités, disait l'Ecclésiaste. Vanité des vanités. Tout est vanité. Quel profit l'homme retire-t-il des peines qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une génération lui succède. La terre, cependant, reste à sa place. Le soleil se lève, le soleil se couche, puis il regagne en hâte le point où il doit se lever de nouveau. Tantôt soufflant vers le sud, ensuite passant au nord, le vent tourne, tourne sans cesse et revient éternellement sur les cercles qu'il a déjà tracés. Tous les fleuves se jettent dans la mer et la mer n'est pas remplie. Et les fleuves reviennent au lieu d'où ils coulent pour couler à nouveau. Tout est difficile à expliquer, l'homme ne peut rendre compte de rien. L'œil ne se rassasie pas à force de voir, l'oreille ne se remplit pas à force d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui est arrivé, arrivera encore. Rien de nouveau sous le soleil. Quand on vous dit de quelque chose, venez voir, c'est du neuf. N'en croyez rien. La chose dont il s'agit a déjà existé dans les siècles qui nous ont précédés. Les hommes d'autrefois n'ont plus chez nous de mémoire. Les hommes de l'avenir n'en laisseront pas davantage chez ceux qui viendront après eux.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, cet extrait de l'Ecclésiaste interprété par Georges Class. Quand on vous dit de quelque chose, venez voir, c'est du neuf, n'en croyez rien, c'est un bon conseil qui s'adresse aussi à nos contemporains, Denis Moreau, n'est-ce pas?
Oui, alors bon, c'est le prologue de l'Ecclésiaste, magnifiquement lu. C'est là où je pense qu'un certain nombre d'auditeurs découvrent qu'ils connaissaient l'Ecclésiaste sans le savoir.
En tout cas, cette expression, rien de nouveau sous le soleil.
Deux expressions, vanité des vanités, tout est vanité, et rien de nouveau sous le soleil, donc qui sont passées en proverbe. Alors, c'est un peu anecdotique, mais vous voyez, moi, quand j'étais enfant, j'avais des bandes dessinées des Schtroumpfs, et il y avait le Schtroumpf à lunettes, c'est un personnage d'intellectuel un peu pénible, et je me souviens que, alors j'ai pas retrouvé de quel album il s'agissait, il disait Vanitas, Vanitas Schtroumpf, et tout est Vanitas Schtroumpf. Et j'avais appris ça par cœur, je trouvais ça très drôle, et c'est seulement 15 ans plus tard, en lisant l'Ecclésiaste, que j'ai découvert que les Schtroumpfs citaient l'Ecclésiaste. Alors, c'est pas seulement une plaisanterie, c'est entre la chanson des Birds que vous nous avez fait passer au début d'émission, cette phrase vanité des vanités que tout le monde connaît, cette expression rien de nouveau sous le soleil que tout le monde connaît, on voit à quel point l'Ecclésiaste, comme d'autres textes bibliques, sont des textes qui ont imprégné notre culture à tel point que, enfin, comme beaucoup d'expressions, par exemple tirées des évangiles, nous les citons sans connaître leur origine.
Et sans forcément en mesurer l'impact ou la teneur, disons, philosophique. Rien de nouveau sous le soleil, c'est une réponse qu'on peut donner à la question quoi de neuf, rien de nouveau sous le soleil. Et en réalité, ce qui est impliqué par cette affirmation est très lourde de sens, c'est très signifiant. Bah,
on peut y voir une thèse philosophique. Moi, si on prend ce texte au sérieux, c'est ce qu'il faut faire. Donc, vanité des vanités, il faut expliquer philosophiquement ce que ça veut dire. Rien de nouveau sous le soleil, il faut expliquer philosophiquement.
Alors,
ce
allons-y.
Que ça veut dire. Allons-y, on commence
par la vanité.
Par la vanité des vanités. Alors, vanité des vanités. Donc, en hébreu, je ne suis pas hébraïsant, mais j'ai lu un petit peu sur le sujet, c'est evel, le mot vanité. Donc, c'est un mot qui évoque la buée, le vent, le souffle. Donc, suivant la traduction de la Bible que vous allez choisir, vous avez trouvé vent des vents, souffle des souffles, buée des buées.
Donc, c'est plutôt, ça renvoie à l'idée d'éphémère, d'évanescent.
C'est la bulle de savon.
Beaucoup plus que le caractère vain de quelque chose.
C'est beau et ça fait pop, quoi. Ça nous claque entre les doigts. Et tout le livre de l'Ecclésiaste va être une espèce de longue méditation, une mélopée désenchantée sur ce caractère évanescent des petits plaisirs que nous rencontrons dans la vie. Vanité des vanités. Ensuite, alors évidemment, la formule a été commentée jusqu'à plus soif. Il y a quand même deux sortes de lectures qui se sont imposés, que dans le début du christianisme, il y a eu une lecture moraliste ou moralisante que pour ma part je n'aime pas beaucoup, que celle de saint Augustin, qui lit vanité des vaniteux. Donc l'idée, c'est le problème, c'est pas les objets, c'est
le comportement
humain. Nous nous rapportons. Vous voyez, je suis invité à France Culture, j'en ai parlé à tous mes copains. Vanité des vaniteux, tout ça va faire pop et dans trois jours on n'en parlera plus. Mais le problème, c'est
maintenant avec les téléchargements, oui. Au contraire.
Maintenant, le problème, c'est
votre vanité. Et tout à fait.
Augustin dit, c'est un texte sur l'orgueil, quoi. C'est un texte sur l'orgueil. Bon, c'est faire la morale, c'est peut-être pas la meilleure façon de le prendre. L'autre lecture, c'est celle du contemporain d'Augustin Saint-Jérôme, qui en fait un texte, alors que si on veut lâcher un gros mot de philosophie, ontologique, sur l'être des choses, donc qui en fait un texte sur la précarité, la façon dont tout se corrompt, se défait, nous échappe. Et donc le problème, là, ce n'est pas nous. Le problème, c'est le réel auquel nous nous rapportons et qui ne comble pas nos attentes. Alors, vanité des vanités, enfin, on peut en parler longtemps. On peut aussi signaler quand même que je pense que c'est le seul texte biblique qui ait donné naissance à un genre pictural, les vanités. Donc, vanités qui connaissent, alors tout le monde connaît ça, c'est la peinture hollandaise du XVIIe siècle. Mais il y en a aussi en France et en Italie, mais c'est en Hollande que ça trouve son apogée. Donc les vanités, ce sont ces natures mortes qui insistent à la fois sur la précarité des choses. Alors c'est toujours des tableaux assez somptueux, avec des belles choses, des coupes argentées, des plats, des mets appétissants. Mais il y a toujours une feuille qui est en train de perdre son pétale, de la nourriture qui se corrompt, un verre renversé. Enfin voilà, c'est une méditation sur le caractère transitoire et fragile des choses. Et puis dans les vanités, vous avez aussi souvent une méditation sur le caractère transitoire et fragile de l'existence humaine. Et donc là, vous trouvez des têtes de mort, des grimoires rongés par des souris. Et donc ça, c'est le thème de la mort, qui est aussi un thème très présent dans l'Ecclésiaste, dont on reparlera plus tard.
Mais vanité des vanités, encore un mot. C'est-à-dire que c'est pas simplement la vanité qui est évoquée dès le début du texte, c'est la vanité des vanités. Comme s'il y avait une vanité suprême.
Oui, alors c'est la vanité de toute chose. Et à nouveau, j'insiste, dans vanité, entendons le français vain.
C'est ça.
C'est vain. Ça ne sert à rien. Et ça, c'est la question que pose l'Ecclésiaste, c'est-à-dire qu'une question lancinante, poisseuse, collante qui hante ce texte, hein, c'est à quoi bon? À quoi bon?
Oui, puisque si tout est vain, les premiers mots sont tout est vanité, bon. À quoi bon même continuer à lire si tout est vain, s'il n'y a aucun sens, si nous vivons dans un monde absurde où rien n'est justifié, pourquoi même prendre la peine de lire ce texte? Heureusement, voilà. Nous l'avons entendu, donc la peine a déjà été prise et on a vu que c'était plutôt un moment de plaisir plus que de souffrance et qu'on arrive à cette phrase qui n'est pas sans lien avec le constat de la vanité qui est donc rien de nouveau sous le soleil. Est-ce parce qu'il n'y a jamais rien de nouveau sous le soleil? Est-ce parce que tout se répète que tout est vain, Denis Moreau?
Alors, c'est d'une certaine façon la thèse que défend l'Ecclésiaste. Rien de nouveau sous le soleil, à nouveau, hein, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. On peut au moins en donner trois lectures. Bon. Première lecture, c'est l'idée que il est vain, enfin, il est erroné de chercher de la nouveauté, d'accord? Et donc ça, c'est quelque chose qui nous frappe, nous modernes, tout particulièrement, nous dont l'existence est une course, vous allez parler de Baudelaire demain,
tout à fait.
Plonger au fond du gouffre, enfer au ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau, donc nous sommes prêts à tout pour du nouveau. Alors on voit ça spécialement dans le domaine de la consommation, hein, l'idée que si c'est neuf, c'est bien, je crois que c'est quelque chose qui est...
C'est l'idée de progrès aussi, hein. Le nouveau est forcément... Progrès,
alors c'est un texte, on en reparlera peut-être tout à l'heure, c'est un texte qui nie qu'il y ait du progrès. Et un progressiste critiquerait l'Ecclésiaste de ce point de vue-là. Donc, pas de nouveau, caractère illusoire de la nouveauté, et caractère illusoire aussi de la recherche de la nouveauté. Ça, c'est quelque chose sur le texte insiste de façon répétitive. Nous sommes en permanence en quête d'objets nouveaux qui satisferaient notre désir. Et comme, alors, j'ai pas la même traduction que celle qui nous a été lue tout à l'heure, mais l'œil n'est pas rassasié de ce qu'il voit, l'oreille n'est pas saturée de ce qu'elle entend. Il y a l'idée qu'il y a toujours une forme de décalage, de jeu entre l'infini ou l'insatiabilité de notre désir d'une part, et d'autre part ce que le réel nous offre pour le satisfaire, et que, enfin, on pourrait appeler ça le principe Rolling Stone, hein, c'est I can get no satisfaction, voilà, nous ne sommes jamais contents, c'est une expérience, je crois, que tout le monde peut faire, quête effrénée de nouveauté. Alors, des gens qui ont parlé de ça de façon très, très belle, c'est Saint-Augustin et Malebranche, au travers du thème de l'inquiétude, alors, non pas comme anxiété, l'inquiétude, c'est le fait de ne pas pouvoir être qui est, donc pas pour être tranquille, toujours être agité en mouvement permanent. Il y a des textes sublimes de Malebranche sur le fait que quel que soit l'objet qui s'offre à notre désir, nous sommes toujours travaillés par un désir plus profond, plus vaste, et que tout objet de désir n'est qu'un trompe-désir et nous sommes en permanence inquiets et agités. Rien de nouveau sous le soleil. Critique donc de l'idée de nouveauté, de la recherche de la nouveauté. Deuxième sens qu'on peut donner à rien de nouveau sous le soleil, alors c'est là que l'hypothèse d'un texte en dialogue avec les sagesses antiques commence à prendre son intérêt, c'est l'idée d'un retour cyclique de toute chose, que vous trouvez développé par exemple chez les stoïciens. Et donc l'idée que voilà, l'univers étant terminé, fini et les éléments qu'il compose limités, toutes choses finissent toujours par se reproduire. Et donc l'idée d'une nouveauté absolue est une illusion.
Et même le signe d'une imperfection, hein, dans la cosmologie grecque ancienne, le mouvement infini des astres est le signe d'une perfection, justement.
Voilà. Soit dit en passant, alors je sais pas si ça s'insère bien ici comme remarque, drôle de texte biblique, on oppose souvent et à bon droit la chronologie des Grecs circulaire, Ulysse, Ulysse, il part d'Ithaque, il bourlingue, il fait la guerre de Troie, et l'Odyssée, puis il revient chez lui. Ulysse, il revient changer, mais il tourne en rond, et donc on dit souvent que les Grecs ont une conception cyclique du temps, et à cette conception cyclique du temps, on oppose la conception biblique du temps, qui est une conception linéaire. Abraham ou Moïse, ils partent de quelque part, ce sont des figures de migrants, hein. Abraham et Moïse, ils partent de quelque part, ils vont ailleurs, donc ils voyagent, mais le point d'arrivée n'est pas le même que le point de départ. Et donc je pense qu'on a raison d'opposer ces deux conceptions du temps. Il se trouve que l'Ecclésiaste, c'est celui qui, dans la Bible, défend une conception non biblique du temps, une conception cyclique. Donc le vilain petit canard qui vient compliquer un peu les affaires bibliques.
Et alors votre troisième interprétation.
Et alors la troisième interprétation, c'est celle de Spinoza, peut-être un des plus grands lecteurs de la Bible. Hein. Spinoza, c'est celui qui a inventé la critique biblique, à peu de choses près, donc la lecture moderne, historique de la Bible, et qui cite à plusieurs reprises, donc, comme je le signalais tout à l'heure, l'Ecclésiaste. Il appelle Salomon le philosophe. Alors c'est polémique. Au XVIIe siècle, le philosophe, c'est les scolastiques qui se servent de ce nom-là pour désigner Aristote. Et donc, Salomon désapproprie Aristote, Spinoza désapproprie Aristote de ce nom et l'attribue à Salomon. C'est très bizarre de la part de Spinoza parce que selon Spinoza, la Bible, ça n'est pas un livre de philosophie. Surtout pas. La pire chose qu'on puisse faire, c'est aller chercher de la philosophie dans la Bible. On peut y trouver plein de choses, mais pas de philosophie. Et donc, c'est à nouveau une façon de pointer le caractère singulier de ce texte. Voilà un petit une petite pépite philosophique dans la Bible. Et Spinoza, alors, se sert de cette affirmation « rien de nouveau sous le soleil » pour défendre l'idée que les lois de la nature sont universelles et immuables.
Et donc pour dénoncer les miracles. Partout.
Et donc pour dénoncer les miracles. Je vous cite le texte. « Le philosophe dans l'Ecclésiaste enseigne très clairement qu'il ne se produit rien de nouveau dans la nature. » Il éclaircit cette affirmation en disant que bien qu'il se produise quelquefois des choses d'apparemment nouveau, ce n'est pourtant pas nouveau, mais cela s'est déjà produit dans les siècles précédents et le souvenir en est perdu. On ne peut rien retrancher aux lois de la nature et c'est l'ignorance des hommes qui fait que les miracles paraissent quelque chose de nouveau. Et donc, belle pirouette spinoziste qui consiste à utiliser un texte biblique pour contester ce dont la Bible rengorge, c'est-à-dire les récits de miracles.
Spinoza qui n'est pas connu pour sa défense de la religion, pour le dire ainsi. Ceci étant posé, Denis Moreau, vous avez parfaitement recomposé le contexte de l'Ecclésiaste, de ce texte, contexte d'écriture, le narrateur personnage Salomon qui serait l'Ecclésiaste, la postérité des deux formules très connues, vanité des vanités et rien de nouveau sous le soleil. Si on continue la lecture de ce texte, il est très surprenant de rencontrer d'autres passages qui, à constat égal, d'inutilité, de recherche de la nouveauté, même à constat égal, cette répétition permanente du même, l'avenir est ce qui a déjà été, donc il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de futur, il n'y a pas d'évolution possible, on y trouve quand même un appel à jouir du temps qui passe, à jouir de l'instant. On peut trouver le temps pour chaque chose, c'était le sens de la chanson qui a ouvert cette émission. Je vous propose qu'on écoute un autre extrait où on y lit une espèce d'invocation à prendre un temps pour tout. C'est la formule, écoutez Georges Clès.
Il y a un temps pour tout, et chaque chose sous le ciel a son heure. Temps de naître et temps de mourir, temps de tuer, temps de guérir, temps de planter, temps de détruire, temps de bâtir, temps d'arracher, temps de gémir, temps de danser, temps de pleurer et temps de rire, temps d'assembler les blocs, temps de les disperser, temps d'aimer les baisers et temps de les maudire, tant de poursuivre un rêve ou de se l'interdire, tant d'aimer un objet, tant de le repousser, tant où l'on coud, où l'on déchire, tant où l'on garde, où l'on se tait, tant où l'on hait, où l'on soupire, tant de la guerre et tant de paix. Il n'y a qu'une seule chose bonne pour l'homme, c'est de se réjouir et de goûter le bonheur pendant qu'il vit. Oui, quand un homme mange, boit, jouit du bien-être acquis par son travail, cela est un don de Dieu. Je vis clairement que tout ce que Dieu a fait restera éternellement tel qu'il l'a fait. Rien n'y peut être ajouté. On n'en saurait rien retrancher. Tout cela, Dieu l'a fait pour qu'on le craigne. Le passé a existé dans un passé antérieur, l'avenir a déjà été. Dieu recherche, pour le faire être encore, ce qui semblait avoir fui pour jamais. A time to build up, a time to break down, a time to dance, a time to mourn, a time to cast away stones.
to everything turn, turn, turn. There is a season, turn, turn, turn. And a time to every purpose under heaven. A time of love, a time of hate, a time of war, a time of peace. A time
Turn, 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 c'est donc The Birds qui chante. Cet extrait de l'Ecclésiaste que nous venons d'entendre, Denis Moreau. Alors quelle surprise quand même de lire ces phrases. Il n'y a qu'une seule chose bonne pour l'homme, c'est de se réjouir et de goûter le bonheur pendant qu'il vit. On a l'impression ici qu'on nous invite à bien, oui, à jouir de l'instant présent, carpe diem. Alors jusque-là, c'était au contraire, vous souffrez de cette absence de sens, mais c'est comme ça.
Plusieurs choses. D'abord, il faut signaler que le texte à nouveau magnifique qui vient de nous être lu est un des passages les plus optimistes du livre. Hein. C'est le début du chapitre.
Mais il est vraiment optimiste, pour le coup.
Il y a une certaine forme d'optimisme. Alors, c'est là que l'hypothèse d'un texte en dialogue avec les philosophies hellénistiques prend tout son sens. Puisque, alors, un temps pour tout, ça peut évoquer le kairos aristotélicien, c'est-à-dire
le moment opportun.
Il est qu'il y a... Donc, une notion qui a été importante dans la philosophie pratique des Grecs, peut-être, mais c'est peut-être un peu forcé. En revanche, il est très clair, alors là, le parallèle a souvent été fait, et ça scande le texte. Hein, il n'y a pas de bonheur pour l'homme, sinon dans le plaisir, le bien-être durant sa vie, et si un homme boit, mange et trouve le bonheur dans son travail, ce sera un don de Dieu. Le parallèle est frappant avec la lettre à Ménécée d'Épicure, donc le carpe diem que vous avez mentionné. Et donc, oui, là, je pense que, manifestement, il y a une influence épicurienne dans la Bible, dans ce texte, qui veut dire qu'il y a des bouts d'épicurisme dans la Bible. Alors, à nouveau, on peut être un peu surpris, mais c'est ainsi. Après, il faut relativiser alors, ces moments épicuriens. Si vous lisez la totalité du texte, c'est très frappant, comme à un tel point que certains rabbins commentant ce texte y ont vu un dialogue. On pensait qu'il y avait deux voix, qu'il y avait une espèce de disciple un peu inquiet, un peu dégoûté des choses de la vie, ne trouvant guère de sens à tout ce qu'il pouvait voir et vivre, et d'autre part un maître de sagesse qui lui répondait et qui essayait de le remettre dans le droit chemin. Alors là, on aurait le passage maître de sagesse, disant, écoutez, prends du plaisir, jouis donc. Et puis, si vous lisez la suite du texte, il y a des passages beaucoup plus désabusés qui disent, j'ai essayé la boisson, ça m'a pas apporté de bonheur.
Alors, il faut le dire ça quand même, que ce narrateur, qu'il soit Salomon ou autre, cet ecclésiaste, il se présente quand même comme un homme qui a tout vu, qui a tout vécu, qui est allé partout et qui n'en retire quasiment presque aucune satisfaction. Il est blasé, en fait.
Oui, il y a une chose qui est intéressante, qu'il faut dire, c'est il n'y a pratiquement pas de coordonnées historiques et géographiques dans le texte. Il y a au début, moi, fils de David, roi de Jérusalem, mais sinon... on pourrait dire que c'est presque une autobiographie de tout le monde.
C'est ça, où il raconte sa vie, ses expériences.
On peut retrouver nos vies, nos expériences. Alors, c'est là l'hypothèse salomonique, prend son intérêt. C'est qu'est-ce que ce texte, ça serait une espèce de satrape oriental de type qui aurait profité de tous les plaisirs de la vie et qui, au soir de son existence, passerait tout ça en revue en disant « j'ai perdu mon temps, à quoi bon ?» Ça n'était pas ça qui méritait que je m'y investisse. Tout l'intérêt du texte, mais aussi son ambiguïté, hein, c'est ça qui fait qu'il est susceptible de recevoir plein d'interprétations différentes, tient à cette espèce de balancement entre des moments affirmatifs. Il y a des thèses, rien de nouveau. On dit souvent que c'est un texte sceptique. Je ne crois pas que ce soit un texte sceptique. Quand on affirme des choses, on n'est pas sceptique. Donc, balancement entre des moments affirmatifs, comme des bribes de sagesse, des tentatives pour mettre un peu de sens dans le bazar de la vie, et puis des moments de découragement où on se rend compte que ça n'a pas marché, que cette tentative de produire du sens échoue, qu'on se heurte à de l'incompréhensible, de l'absurde. Et c'est ça qui fait toute la saveur de ce texte. Alors, c'est un texte de sagesse, mais qui ne fait pas système. Thème, si vous voulez.
Mais précisément parce que le narrateur revendique toujours le fait de parler selon son expérience. C'est peut-être pour ça qu'on peut parler parfois de scepticisme, c'est que si la vérité est indexée sur l'expérience, alors elle est subjective et sans cesse changeante. Et c'est ce rapport à l'expérience qui donne à ce texte cette saveur si particulière.
Oui, et qui peut évoquer, mais l'expérience c'est celle de tout le monde.
Oui, mais c'est une donnée empirique, c'est-à-dire que c'est pas simplement théorique et affirmatif, rien de nouveau sous le soleil. C'est voilà pourquoi je vous affirme ça, parce que j'ai tout vu, je sais qu'il n'y a rien de nouveau, et je vous dis quand même qu'il vaut mieux en profiter. C'est quand même ça ce que dit le texte que l'on vient d'entendre.
Pas seulement. Ça, c'est à nouveau. il faudra qu'on pose un moment ou un autre la question, a-t-il raison?
Ah mais on peut le faire maintenant, simplement il faut avoir en tête tous les éléments.
Là vous êtes dans l'interprétation optimiste.
On vient de l'entendre de Nimoro, il n'y a qu'une seule chose bonne pour l'homme, c'est de se réjouir et de goûter le bonheur pendant qu'il vit. Il y en a d'autres, des phrases où il explique « Réjouis-toi dans ta jeunesse, sois heureux au jour de ton adolescence, sur les voies de ton cœur et les désirs de tes yeux. » Il est question de plaisir, de désir, de bonheur et de réjouissance.
Oui, mais moi, Adèle, je vous réponds.
Alors, allez-y, faisons le dialogue.
Chapitre 5, la satiété du riche ne le laisse pas dormir. Chapitre 6, toute la peine que prend l'homme est pour sa bouche et pourtant son appétit n'est jamais satisfait. Voilà, etc.
Ce sont des constats qui ne sont pas incompatibles avec le bonheur. On peut avoir une vision cette fois-ci non plus épicurienne ou épicurienne et stoïcienne qui consiste à limiter ses plaisirs au minimum quasiment vital, à éliminer la richesse et tous les plaisirs superflus de manière à pouvoir vraiment jouir de ce que nous avons.
Oui, alors on a parfaitement le droit de penser ça, et si je parlais en mon propre nom, c'est ce que je dirais, mais c'est pas exactement ce que dit ce texte-là. Il insiste après pour vanité de tout ça. Vous avez embrassé du vent, vous n'avez pas trouvé la satiété, vos bonheurs ont été limités. Alors c'est peut-être petits plaisirs locaux, mais ça n'est pas le grand bonheur dont vous rêviez. Donc là, je pense que vous êtes quand même en train d'évacuer la tonalité désenchantée, triste, fatigué sous certains aspects.
Mais c'est parce que nous n'avons pas encore évoqué Dieu. C'est qu'en réalité, parce que la question se pose de savoir, est Dieu dans tout ça quand même? Or, quand il est fait référence à Dieu, c'est justement comme pour mettre en regard notre propre existence face à une autre existence, sans doute dans une perspective peut-être plus pascalienne.
Oui, alors, on évoque Pascal, autre grand lecteur de l'Ecclésiaste. Bon, le texte parle de Dieu. C'est vrai, le mot apparaît de façon assez régulière. Il en parle quand même de façon singulière par rapport à bien d'autres textes bibliques. Il n'y a pas une prière. On ne s'adresse jamais à Dieu. Il est là, à surplomber les choses, mais on ne s'adresse pas à lui. Le lyrisme, l'enthousiasme des prophètes est totalement absent. Pas de référence à un messie. Pas de référence à un dieu qui planifierait l'histoire pour l'organiser. Enfin, donc c'est une espèce de dieu lointain qui contemple le chaos humain sans intervenir.
Presque cruel aussi. Hein. Il est dit qu'il est, il a fait toute chose bonne à son heure. Le monde, il le déroule devant les hommes, mais de façon que d'un bout à l'autre, les hommes ne puissent rien comprendre à ses desseins.
Oui, ah oui, oui. On est dans un.
C'est le dieu de l'absurdité.
C'est le monde opaque. Hein. C'est un monde avec. C'est aussi un monde injuste. On n'a pas encore parlé vers les chapitres 7 et 8 des considérations.
Cette phrase terrible, hein, où l'homme juste et l'homme injuste auront le même sort sous le soleil.
Oui, voilà. Alors ça.
À quoi bon agir moralement?
Bah, vous savez, ça renvoie à une crise profonde dans l'univers biblique. L'histoire de la Bible, ça s'écrit sur 1000 ans, quand même. Il y a eu toute une première période où on fonctionnait avec l'idée de rétribution. C'est-à-dire, il y avait l'idée que quand vous agissiez bien, Dieu vous récompensait, puis quand vous agissiez mal, Dieu vous punissait, puis ça marchait dans l'autre sens, c'est-à-dire que si vous étiez heureux, c'est que vous aviez bien agi, et si vous étiez malheureux, c'est que vous avez sûrement commis des péchés. Rude philosophique pour ma part, enfin, je ne parle pas, mais qu'on retrouve aujourd'hui chez certains libéraux. Hein, Donald Trump, il est riche, donc c'est qu'il a bien agi et que Dieu a voulu le favoriser, et puis les pauvres, c'est bien fait pour eux. Donc voilà, c'est des thèses qui se sont laïcisées et qu'on entend encore. Ça, c'est rentré en crise assez rapidement, parce qu'on voit bien que, enfin, tout le monde fait l'expérience de la prospérité des méchants et du malheur des justes, quoi. Et c'est rentré en crise en Israël aux alentours de 580, lorsque le royaume d'Israël a été envahi par Nabucodonosor et les Babyloniens, et donc là, l'idée rétributive est cassée. On en a le témoignage. Genre, le témoignage le plus frappant, c'est le livre de Job, le juste malheureux. Le livre de Job qui n'est pas sans parenté avec l'Ecclésiaste. Simplement, quand Job est en mauvaise santé et vit la condition humaine sur le mode de la tragédie, l'Ecclésiaste est bien portant et vit ça sur le mode du désenchantement. Mais c'est comme deux livres bibliques qu'on a envie de rapprocher les uns des autres. Et donc, l'Ecclésiaste enregistre cette crise de la rétribution et cette forme d'absurdité de l'existence humaine où, effectivement, les bons sont parfois malheureux ou les méchants prospèrent. Vanité, absurde, dirait-on aujourd'hui. Hein. C'est un texte qui, de ce point de vue-là, rejoint une certaine forme d'existentialisme et dont on comprend qu'il ait pu parler à des grands pessimistes, comme Schopenhauer, qui le cite à la fin du monde comme volonté et représentation. Schopenhauer, un tout petit peu dans votre sens, il dit c'est encore un peu optimiste. Ce texte-là, il ne va pas jusqu'au bout du pessimisme. Moi, tel que je le lis, c'est comme un texte triste et fatigué.
Ce qui ne signifie pas qu'il provoque l'abattement chez le lecteur. On va écouter une autre interprétation. Alors, cette fois-ci, interprétation, c'est pas du tout une interprétation directe, mais une mise en scène de la situation absurde dans laquelle se trouve l'homme selon l'Ecclésiaste, hein, donc vivant dans un monde où rien de nouveau ne peut jamais arriver, vivant une répétition éternelle, qui est en fait le fait de sa propre existence et de l'impossibilité absolue d'en sortir. C'est un extrait de Fin de partie de Samuel Beckett, hein, mise en scène par Alain Françon. On retrouve Serge Merlin, donc, qui interprète Ham, ce vieillard paralysé dans son fauteuil roulant, qui discute avec son compagnon Clove. Écoutez.
Rien ne bouge. Tout est... Tout est quoi ?
Ce que tout est, en un mot, c'est ça que tu veux savoir ? Une seconde. Mortibus. Alors, content ?
Regarde la mer !
C'est pareil.
Regarde l'océan !
Jamais vu une chose comme ça!
Quoi? Une voile? Une nageoire? Une fumée?
Le fanal est dans le canal.
Pas, il l'était déjà.
Il en restait un bout?
Oui, la base.
Oui?
Et maintenant?
Plus rien!
Pas de mouette!
Mouette?
Et l'horizon? Rien à l'horizon!
Mais que veux-tu qu'il y ait à l'horizon?
Les flots, comment sont les flots?
Les flots? Du plomb.
Et le soleil?
Néant. Pourquoi cette comédie tous les jours?
La routine. On ne sait jamais. Cette nuit, j'ai vu dans ma poitrine, il y avait un gros bobo.
Tu as vu ton cœur?
Non, c'était vivant. Clope?
Oui.
Et qu'est-ce qui se passe?
Quelque chose suit son cours.
Voilà cette phrase de Beckett qui, ce à quoi tout se ramène, toute l'œuvre de Beckett et peut-être toute l'existence dans la perspective qui est celle de l'Ecclésiaste. Quelque chose suit son cours, il se passe quelque chose, nous ne savons pas ce que c'est, tant c'est une répétition. Dans cette pièce de Beckett, c'était ici une mise en scène d'Alain Françon de novembre 2013, on a cette idée quand même, l'un des personnages dit « Mais pourquoi cette comédie tous les jours ?» Il lui répond « Mais c'est la routine !» Ce à quoi il ajoute « On ne sait jamais !» Et est-ce qu'on n'a pas ici dans cette mise en scène de Moreau l'écart entre eux le texte et l'expérience, puisque l'Ecclésiaste fait grand cas de notre expérience, qui est de se dire, une chose est d'affirmer qu'il n'y a jamais rien de nouveau sous le soleil, que nous ne vivons que l'éternelle répétition du même. Une autre peut-être est d'espérer de n'être pas certain que les choses se répètent jamais vraiment. On ne sait jamais, et c'est ce « on ne sait jamais » qui nous donne la force de continuer
bien
à vivre.
Alors là, vous êtes en train de faire l'éloge de la vertu d'espérance. Je crois qu'une des questions qui se posent quand on lit l'Ecclésiaste, si on prend au sérieux sa description de l'existence, c'est comment s'en sortir? Parce que c'est quand même pas très joyeux. En préparant l'émission, pour rire, j'ai sorti les critères d'un épisode dépressif majeur du DSM-5, donc le manuel de diagnostic des troubles mentaux de l'Association américaine de psychiatrie. Il faut remplir 5 des symptômes suivants pour être diagnostiqué en épisode dépressif, dont humeur dépressive, diminution marquée de l'intérêt pour les plaisirs ou les activités pratiquées toute la journée, c'est très clair dans l'Ecclésiaste, perte de poids, bon ça on peut pas savoir, agitation. Oui, il y a cette espèce de va-et-vient permanent, fatigue ou perte d'énergie, diminution de l'aptitude à penser. Effectivement, c'est un texte qui n'est pas organisé. Et enfin, pensée de mort récurrente. Donc, on pourrait se demander si ce n'est pas un texte...
Oui, mais là, ce sont autant de caractéristiques qu'on retrouve dans beaucoup de textes et chez beaucoup d'individus. Là, oui. C'est un cas pathologique particulier qu'il faut prendre au sérieux. Les symptômes que vous décrivez, on peut les retrouver alors là, chez beaucoup, beaucoup d'écrivains. Et, oui, en effet.
On peut se demander si ce n'est pas un texte sur la dépression, par certains côtés, ce qui lui donnerait un certain intérêt, parce que je pense que c'est une expérience que nous sommes un certain nombre à avoir faite. Mais voilà, c'est un texte quand même qui charrie une forme de tristesse lourde. Vous parliez de la question de l'espoir. Je pense que là c'est une question qui se pose. J'avais un des grands commentateurs d'Ecclésiaste, c'est Jacques Ellul, ce chrétien un peu spécial, là, qui se définissait comme anarchiste chrétien, qui a sympathisé avec l'extrême gauche, mais non, l'extrême gauche n'a pas voulu parce qu'il était chrétien. Il a écrit une longue méditation sur l'Ecclésiaste, qui s'appelle La raison d'être, qui est un très beau texte. Et en incipit, il met cette phrase de Bernanos : pour être prêt à espérer en ce qui ne trompe pas, il faut d'abord désespérer de tout ce qui trompe. Peut-être que c'est ça que nous apprend l'Ecclésiaste, c'est à désespérer ou ne pas espérer en ce qui ne peut pas satisfaire notre espoir pour essayer de l'orienter ailleurs. Alors la question, c'est vers quoi ? Je crois que quand on a lu l'Ecclésiaste, et si on prend au sérieux cette description désenchantée, voire triste de l'existence humaine, il y a trois solutions. D'abord, on peut assumer l'absurdité de la condition humaine, et de ce point de vue-là, c'est un des précurseurs des philosophies de l'absurde, hein, très clairement. On peut le mettre au rang de ceux que Nancy Houston appelle les professeurs de désespoir, et donc au panthéon desquels on compterait l'Ecclésiaste, puis Schopenhauer, puis Suran, puis Michel Houellebecq. Je lisais pendant ces vacances, la phrase est un peu crue, mais je pense que en 2017, l'Ecclésiaste aurait pu l'écrire, c'est une phrase de Michel Houellebecq, c'est « La vie sexuelle de l'homme se décompose en deux phases. Dans la première, il éjacule trop tôt, et dans la deuxième, il n'arrive plus à bander. » Voilà. Ça, c'est balancement assez caractéristique même du style de l'Ecclésiaste dans le texte qu'on a lu. Donc voilà, assomption délibérée de l'absurdité de la condition humaine. Pourquoi pas ? Moi, c'est pas trop ma façon de voir les choses. Alors, Renan, qui a traduit l'Ecclésiaste et qui en a donné un commentaire, dit « c'est l'œuvre d'un philosophe fatigué ». C'est l'œuvre d'un philosophe fatigué. On peut réfléchir aussi aux moyens de lutter contre cette fatigue, alors dont il ne s'agit pas de nier qu'elle soit une des dimensions constitutives de l'existence, mais dont on peut se demander si elle doit en rester l'horizon dernier. Et là, je vois deux solutions, une solution philosophique et une solution religieuse.
Vous proposez des solutions aux problèmes pointés par l'Ecclésiaste.
Écoutez, j'ai pas envie d'être malheureux. C'est assez banal, en fait. Et donc, quand je fais de la philosophie, moi, le philosophe qui m'inspire peut-être plus que l'Ecclésiaste, c'est Spinoza. D'accord ? Et donc, j'essaye d'échapper aux passions tristes pour développer des affects de joie. On peut dire l'Ecclésiaste.
Mais les deux ne sont pas forcément incompatibles, parce que vous ne cessez de répéter que c'est un texte triste, fatigué, qui n'est pas optimiste, et vous préférez les textes optimistes. Mais on peut tout à fait, dans une perspective qui serait davantage celle de Camus, par exemple, philosophe de l'absurde par excellence, puisque vous évoquiez l'absurde, prendre acte de ce constat, de la vanité de toute chose, et pour autant ne pas renoncer à la jouissance. Et il me semble, même si c'est une lecture peut-être incomplète de ce texte, que c'est ce que l'Ecclésiaste nous invite à faire. Vanité des vanités, certes, mais jouissons, puisque rien ne vaut rien, puisque de toute façon nous allons tous mourir, et que le monde n'a aucun sens. Profitons de chaque heure, un temps pour chaque chose, c'est ce que disait le texte. C'est pas incompatible, et c'est pas pessimiste, c'est plutôt lucide et...
Bien sûr, non, j'entends.
Et le soleil est clair, rien n'est nouveau sous le soleil, oui. Mais le soleil est là quand même dans ce texte.
J'entends tout ça. Il me semble simplement qu'on peut concevoir philosophiquement un peu plus ambitieux. Ce serait Spinoza qui veut. Alors, pour dresser un parallèle, il est très clair que, dans mon esprit, le prologue du traité de la réforme de l'entendement de Spinoza, c'est une espèce de commentaire de l'Ecclésiaste. Ce que vous dit Spinoza, c'est « j'ai testé pour vous ». C'est un texte qui, d'emblée, le premier mot, c'est « expérientia » en latin, se place sur le terrain de l'expérience, comme celui. Et Spinoza vous dit « j'ai testé pour vous honneur, plaisir, richesse ». Et ça ne m'a pas apporté, alors non pas que je n'ai pas joui, ça ne m'a pas apporté tout le bonheur que j'escomptais. Et Spinoza vous dit « moi, je vais placer l'ambition philosophique un cran plus haut, ce que je veux, c'est une éternité de joie continue et souveraine. » Donc, mieux que le petit plaisir ponctuel.
Bon, ça dépend pour qui, mais certes, soit, allez-y.
Voilà, donc, et Spinoza fait un pari philosophique, et donc, après le moment coélétien, on va dire, ou ecclésiastien de la philosophie spinoziste, qui est le début du traité de la réforme de l'entendement, vous avez l'éthique. L'éthique, d'apprendre au moyen d'une réforme de ses passions, diminuer autant que possible la tristesse en nous, augmenter autant que possible la joie en nous, pour parvenir à la béatitude par une grande acceptation pleine et entière de la réalité telle qu'elle se donne à nous. Voilà un projet philosophique qui, je trouve, se défend et que je préfère à cette espèce de résignation de l'Ecclésiaste. Je suis pas tout seul. Quelqu'un qui dirait la même chose, c'est Jean Jaurès. Alors, c'est une référence un peu inattendu. Jean Jaurès, qui connaissait ses classiques et sa Bible, discours à la jeunesse, en 1903, c'est déjà Jaurès bien installé, qui parle à la jeunesse et qui, alors c'est le Jaurès plein d'espoir en des lendemains qui chantent un avenir meilleur pour les ouvriers et les socialistes, qui parle aux jeunes et qui leur dit à propos de ce qu'on a dit sur le mouvement ouvrier, que de railleries, que de prophéties sinistres sur l'œuvre qui est là, que de lugubres pronostics opposés aux ouvriers qui prétendaient se diriger eux-mêmes, essayer dans une grande industrie la forme de la propriété collective et la vertu de la libre discipline. L'œuvre a duré pourtant, elle a grandi, elle permet d'entrevoir ce que peut donner la coopération collectiviste. Humble bourgeon à coup sûr, mais qui atteste le travail de la sève, la lente montée des idées nouvelles, la puissance de transformation de la vie. Rien n'est plus menteur que le vieil adage pessimiste et réactionnaire de l'ecclésiaste désabusé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le soleil lui-même a jadis été une nouveauté, la terre fut une nouveauté, l'homme fut une nouveauté. L'histoire humaine n'est qu'un effort incessant d'invention et la perpétuelle évolution est une perpétuelle création. Bon, c'est un peu méchant pour l'ecclésiaste, hein, le vieil
surtout,
adage.
Il affirme, il oppose sa phrase à une autre. Hein, il dit, bah si, en fait, tout a été nouveau. Bon, pourquoi pas?
Il dit, ne perdons pas espoir en la possibilité d'innovation.
Mais alors, puisque vous me rétorquez avec Jean Jaurès, voici Montaigne, parce que là, pour le coup, c'est une interprétation de l'ecclésiaste qui est très intéressante, parce qu'il reprend à son compte le même constat de la vanité, le terme revient beaucoup chez Montaigne, celui de la vanité des choses. Et Montaigne est quand même aussi l'auteur de « Quand je danse, je danse, quand je ris, il faut un temps pour tout ». Il reprend exactement cette ambivalence du texte ecclésiastique. Est-ce qu'on peut dire pour autant que Montaigne était un philosophe fatigué qui manque d'ambition? Je suis pas sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est davantage du côté de la jouissance que de la joie, s'il faut opposer les deux, puisque finalement, alors, c'est la division qui traverse cette émission.
Vous faites bien de citer Montaigne, qui fut un grand lecteur de l'Ecclésiaste. Vous savez qu'il avait fait graver sur le plafond, ce qu'il appelait sa librairie, donc sa bibliothèque des citations. Il y avait 59 citations gravées sur le plafond de la bibliothèque de Montaigne, dont 21 issues de la Bible, dont 13 issues de l'Ecclésiaste. C'est de loin le texte, il avait ça sous les yeux toute la journée. Donc vous avez raison, c'était une interprétation joyeuse, positive de l'Ecclésiaste. Il reste quand même quelque chose dont on n'a pas encore parlé, et qui est le couperet dont l'Ecclésiaste parle souvent, c'est la mort. La mort qui vient tout balayer et nous fait verser dans le néant. Alors là encore, je crois qu'il y a différentes façons de se rapporter à ce problème-là. Il y a une assomption joyeuse de notre finitude. Quelque chose me dit que ça doit être votre façon de penser.
La joie, c'est plutôt vous qui avez joué la carte de la joie. Moi, je suis plus du côté de la jouissance.
Vous avez un rapport angoissé à la mort. Et puis vous avez enfin comme la réponse religieuse ou chrétienne. Alors c'est peut-être pour en revenir à la question, qu'est-ce que ce texte fait dans la Bible? Parce qu'on voit bien quand même que, enfin, je pense que nos auditeurs ont senti à quel point c'était surprenant par rapport à l'image qu'on se fait à l'accoutumée de la Bible de trouver ce texte-là à l'intérieur. Qu'est-ce que ce texte-là fait dans la Bible? Alors là, j'en reviens à la lecture de Pascal, qui lui aussi fut un grand lecteur de l'Ecclésiaste, qui est une lecture alors que je n'aime pas beaucoup, parce que il insère ça dans ses pensées sur la misère de l'homme sans Dieu. La misère de l'homme sans Dieu, c'est un leitmotiv des pensées de Pascal, que personnellement je trouve très énervant sur ce point. C'est-à-dire, l'idée de Pascal, c'est vous prenez un libertin, vous discutez avec, vous lui expliquez que s'il ne croit pas en Dieu, il est malheureux. Le libertin doit répondre, mais si, moi je ne suis pas si malheureux que ça. Et Pascal, mais si, réfléchis bien, tu verras, si tu réfléchis, tu comprendras que tu es malheureux. C'est un peu curieux, mais c'est ça l'idée de Pascal. Et donc, selon Pascal, l'Ecclésiaste, ça montre un monde sans Dieu, un monde évole, vain. Je cite un pensée, c'est la Fuma 75. L'Ecclésiaste montre que l'homme sans Dieu est dans l'ignorance de tout et dans un malheur inévitable, car c'est être malheureux que de vouloir et de ne pouvoir. Or, il veut être heureux et assuré de quelque vérité, et cependant, il ne peut ni savoir, ni ne désirer, ne point savoir. Salomon et Job ont le mieux connu et le mieux parlé de la misère de l'homme. L'un le plus heureux, l'autre le plus malheureux. L'un connaît la vanité des plaisirs par expérience, c'est votre mot. L'autre la réalité des mots. Alors voilà, donc dans la lecture pascalienne, ce monde absurde, vain, où la mort vient comme un couperet, où la vieillesse vient tout défaire, l'Ecclésiaste, je ne sais pas si on va avoir le temps d'écouter ce texte absolument magnifique, c'est le chapitre 12, hein, sur la venue de la vieillesse.
On peut se quitter avec ce texte.
On peut se quitter avec ça, alors ce ne sera pas très joyeux.
Mais de toute façon, c'est notre fin à tous.
Mais de toute façon, c'est notre condition. Hein, c'est un texte qui est un des sommets littéraires et poétiques de la Bible, je pense, qui évoque sur un mode imagé. Les rabbins lisent ça en disant que chaque métaphore correspond à, enfin, chaque objet mentionné correspond à une partie du corps en train de se déglinguer, donc évoque la vieillesse qui nous guette tous et l'affaiblissement. Chapitre 12 de l'Ecclésiaste.
Souviens-toi de ton Créateur dans les jours de ta jeunesse, avant que ne viennent les jours mauvais, et avant qu'arrivent les années dont tu diras « je n'y prends point de plaisir ». Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière et la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Au jour où tremblent les gardiens de la maison, où se courbent les hommes forts, et où chôment celles qui moulent parce qu'elles ne sont plus en nombre, et où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, et où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand baisse le bruit de la meule et qu'on se lève à la voix de l'oiseau, et que toutes les filles du champ faiblissent. Quand aussi on craint ce qui est haut et qu'on a peur sur le chemin, et quand l'amandier fleurit, et que la sauterelle devient pesante, et que la capre est sans effet, car l'homme s'en va dans sa demeure des siècles, et ceux qui mènent deuil parcourent les rues. Avant que le câble d'argent ne se détache, que le vase d'or ne se rompe, que le seau ne se brise à la source, et que la roue ne se casse à la citerne, et que la poussière retourne à la terre comme elle y avait été, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit le prédicateur. Tout est vanité.
Tout est vanité, mais ça valait quand même la peine de venir en parler ce matin, Denis Moreau, non ?
C'était beau, hein ?
Ce texte est magnifique, texte, et merci à vous d'être venu nous donner l'occasion de l'écouter. Et donc, si on vous écoute, on lit l'Ecclésiaste, une trentaine de pages, ça se lit très vite, très agréable. Et puis ensuite, on lit l'Éthique, c'est ça pour...
Et aussi,
pour s'en remettre.
Le Cantique des Cantiques.
Et le Cantique des Cantiques. Bon, en tout cas, chers auditeurs, joie ou jouissance, à vous de choisir. C'est un peu la séparation qui nous a suivis tout au long de cette émission. On se quitte avec un petit cadeau concocté par Nicolas Berger, la version chantée en chanson de l'éternelle répétition du même. Alors, est-ce que ça produit lassitude ou surprise ? À vous de juger.
Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas. Comme d'habitude, sur toi, je remonte le drap. J'ai peur, tu es froid, comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude.
Mais toi, tu me tournes le dos.
Mais elle me tourne le dos, la connasse.
Comme d'habitude. Comme d'habitude.
Comme d'habitude.
Yes, it was my way.
Toutes les lettres d'admiration destinées à Nicolas Berger seront suivies, enfin seront transmises, évidemment, chers auditeurs, sur France Culture, les chemins de la philosophie. Il est l'heure, comme tous les jours, de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Oui, quand même, on peut philosopher un peu. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Alors, on vous retrouve comme tous les jours, enfin, comme tous les jours depuis hier, hein, depuis la rentrée, pour votre nouvelle chronique, le journal de la philo, où vous parlez chaque jour d'une actualité philosophique.
Exactement. Alors, j'avais dit que je parlerais d'autre chose que de publication, mais quand même, aujourd'hui, je reviens, c'est quand même la rentrée aussi des essais. Deux publications ont aujourd'hui attiré mon attention, deux publications qui m'ont même fascinée, car elles témoignent de la fascination de la philosophie pour l'horreur, pour le monstrueux. Plus précisément, elles soulèvent une question très proche, voire similaire, en partant de l'horreur et du monstrueux, la question de l'identité, de ce qui ne nous ressemble pas, de ce qui nous dépasse, de ce qui est hors de contrôle, hors de nos catégories, de notre notre raison et du raisonnable, la question donc de l'identité de ce qui n'est pourtant pas du tout identique à nous et suscite en cela sidération, fascination ou horreur. Il y a donc deux ouvrages pour cette même question. Alors d'abord l'ouvrage tout à fait classique, d'ailleurs paru en Classique Garnier, Le monstre, la vie, l'écart de Bertrand Nouaille, qui revient sur la tératologie, c'est la science des monstres, proposée et structurée par les naturalistes Étienne Geoffroy Saint-Hilaire et son fils Isidore, dès le milieu du XVIIIe siècle. Et ensuite, le deuxième ouvrage, c'est l'ouvrage The Things, une phénoménologie de l'horreur, paru aux éditions MF, sous la plume de Dylan Trigg, livre plus insolite dans sa forme et ses références, comme par exemple quand il convoque les réalisateurs David Cronenberg, John Carpenter ou encore l'écrivain Lovecraft.
Si seulement je pouvais sérieusement croire, à la toute fin, n'avoir vu aucune de ces horreurs, croire que le choc mental était la cause de toutes mes suppositions, et pour comble la vision ultime qui avait provoqué cette course pour m'enfuir de la ferme désolée d'Aclay et démarrer sa voiture en pleine nuit, ce serait ignorer les faits les plus élémentaires de ce qui vint clore cette expérience. Aujourd'hui encore, il ne m'est rien possible de prouver quant à ce que j'ai vu et entendu.
Cette nouvelle de Lovecraft, dernièrement traduite sous le titre « Chuchotement dans la nuit », pose exactement le décor de ce qu'est faire l'expérience de l'horreur et du monstrueux, à savoir faire une expérience dont on ne peut rien prouver, une expérience sans nom, anonyme, brouillée, nocturne. Et de fait, ces deux ouvrages commencent précisément en décrivant cette expérience-là. Nous voici sur une planète au beau milieu du système solaire, entre océan de glace et noir total, avec Dylan Trigg, où nous voici plongés dans un bocal de formol avec les Geoffroy Saint-Hilaire aux côtés d'un corps déformé. Or, comment décrire ce qui nous entoure quand on ne le reconnaît pas, avec quel mot, quel concept? En fait, et comme le dit très bien Dylan Trigg, comment penser à un monde seulement fait de matière, un monde sans nous, sans sujet et donc même sans pensée. Déjà au milieu du XVIIIe siècle, c'était l'enjeu donc des Geoffroy Saint-Hilaire, père et fils, et c'est l'enjeu de cet ouvrage de Bertrand Nouaille consacré aux deux naturalistes, c'était de saisir le monstrueux, de dépasser l'horreur de la pure matérialité des corps, hors de la raison, pour le ranger dans des cases, pour identifier le déviant et dégager des normes. Mais voilà le drame au final. À force de nommer le monstre, qu'en reste-t-il? À force de créer des normes, n'a-t-on pas rendu le monstre normal? Car l'idée n'est pas de laisser le monstre au banc, mais au contraire de penser grâce à lui, ses formes et son imaginaire, le corps, l'expérience, leur phénoménologie quand ils sont hors du temps, de nous, de l'espace, au seuil.
Moi, c'est une belle façon de rendre hommage aussi à Romero et Hooper, hein, les parents de La Nuit des Morts Vivants, de Massacre à la tronçonneuse, qui nous ont quittés il y a peu.
Tout à fait, et on leur rend hommage en lisant The Thing, une phénoménologie de l'horreur de Dylan Trigg, c'est aux éditions MF, collection Invention, et en lisant Bertrand Nouaille, Le Monstre, la Vie, l'Écart, la Tératologie d'Étienne et d'Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, c'est paru aux éditions Classique Garnier.
Quand la philosophie peut faire hisser les poils sur les bras, c'est toujours une bonne nouvelle. Merci Géraldine, on vous retrouve demain. Demain, pour la suite de cette semaine sur le nouveau, le renouveau, le changement, où se tourner pour trouver du nouveau? Eh bien, Denis Moreau, vous l'avez dit en début d'émission, pour Baudelaire, c'est vers l'inconnu. Est-ce à dire la mort? Réponse demain, en compagnie d'André Guyot. D'ici là, pour réécouter cette émission, ainsi que la chronique de Géraldine, rendez-vous sur le site de France Culture, à la page des Chemins de la Philosophie et du Journal de la Philo, des émissions et chroniques à réécouter en ligne, ou bien à télécharger ou podcaster pour les écouter quand vous voulez. Sur France Culture, à midi, vous retrouverez la grande table d'Olivia Gesbert. Mais tout de suite, à 11h, Florian Delorme pour Culture Monde qui vous parle cette semaine de la revanche des vieux conflits.